message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Participant de ses vertus et de ses grâces. C'est le sixième point. Bien sûr que si le Seigneur nous transforme de gloire en gloire, il faut qu'à un moment donné, frères et sœurs, à un moment donné, que cette transformation se voie. Il faut que nos vies changent. Il faut que ça pétille en nous. Il faut qu'il y ait quelque chose vraiment qui se passe. Il y a besoin que les autres voient le fruit que nous portons. La lumière qui est en nous et qui est sur nous. Que nous puissions montrer les sentiments que l'Esprit Saint a mis en nous. Oui, le Saint-Esprit peut nous changer. Oui, je peux venir à Christ avec des gros défauts de caractère, avec des choses qui pourraient paraître bonnes aux yeux des hommes, mais dont le Seigneur ne veut pas de ça pour nous. Et il nous transforme. Ce que je prie pour nous, avec mon épouse, nous prions ensemble pour que l'amour de Dieu soit répandu au milieu de nous. C'est la seule chose qui compte. Plus j'avance dans ma vie, et plus je sais que s'il n'y a pas ça dans vos vies, dans ma vie, dans la vie de l'Église, il n'y a rien. On se réunit en vain. L'amour, ça va nous faire changer le regard. Ça va nous donner d'être bons et compatissants envers les autres. Ça va surtout nous éviter de juger. Nous serons prompts à juger, à mettre sur l'autre le catalogue évangélique. L'amour, c'est quelque chose qui va nous amener à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et pour en arriver là, frères et sœurs, il a fallu que le charpentier de Nazareth ait pris le rabot pour bien nous raboter dans tous les sens. Et puis, ces contrastes, ces paradoxes, qui ne sont pas dans l'intelligence humaine, mais que celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Le monde dit non, le contraire. Il n'y a que l'amour du Seigneur qui peut nous amener à être comme cela. Il faut que la transformation se fasse d'abord dans nos cœurs. Peut-être qu'une des prières que nous ne faisons pas assez, c'est « Seigneur, change mon regard, change mes attitudes, change mes réactions. Aide-moi à voir comme tu vois, à aimer comme tu aimes. » Un jour, le Seigneur va dire à ses disciples, « Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice ? Mais aimez vos ennemis, ne les haïssez pas. » N'est-ce pas ? Vous avez vu le degré de l'amour ? Si je t'aime, Martienne, il n'y a aucun problème, c'est que c'est tellement normal dans notre vie de chrétien, d'enfant de Dieu, que j'aime ma sœur, c'est normal, j'ai vécu des choses avec elle, mais que je puisse aimer quelqu'un avec qui je n'ai rien vécu, c'est difficile. Aimez vos ennemis, ne les haïssez pas. Et on pourrait encore dire des choses. Si je donne mes biens aux pauvres, si je donne mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Si je parlais la langue des anges et celle des hommes, si j'étais rempli de tous les dons spirituels, un super ministère avec tous les dons, mais qu'il me manque l'amour, je ne suis rien. Un jour, le Seigneur me le montrera. L'amour prend patience. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Voyez-vous les niveaux de degrés de l'amour du Seigneur, et nous pouvons poser nos regards et regarder cette estimation que le Seigneur fait du degré de l'amour pour savoir si nous sommes dans cette estimation qui vient de Dieu. L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 3, verset 14, va nous dire ceci. Hébreux 3, 14. Belle épître que l'Épître aux Hébreux. Excellente épître. Je vous conseille vivement de la relire toute votre vie. Parce que chaque fois que vous la relirez, il y aura une révélation de Dieu à votre égard. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus quoi ? Compagnons, est-il dit ici. D'autres versions disent participants de Christ. Compagnons de Christ, participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Mon frère, ma sœur, l'assurance que tu as au commencement, tu dois le retrouver à la fin. Qu'importe les tempêtes, qu'importe les aléas, qu'importe les temps d'accalmie, il faut que tu sois à la fin comme tu étais au début quand le Seigneur est venu te toucher et a mis sur toi son sceau. Parce que tu es scellé. Parce que tu es scellé. Tu as le sceau de la rédemption. Tu as été scellé par le Seigneur. Comment crois-tu que les anges, quand ils viendront recueillir tous les scandales de la terre, comment vont-ils faire pour reconnaître ceux qui appartiennent à Christ ? Le sceau de la rédemption sur les personnes. Au bénéfice du sang de l'agneau. Quelle grande grâce pour ceux qui sont scellés de ce sceau-là. Car le sceau qui est posé sur ta vie authentifie ce que tu es à l'intérieur. Car quand le sceau sautera, on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Le sceau, c'est pour que nous puissions comprendre de quelle origine nous sommes. Nous sommes participants de Christ. Nous avons été scellés. Maintenant, à un moment donné, ce sceau va être ouvert. Il va falloir bien examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que vous le vouliez ou pas, mes bien-aimés, même si nous avons notre salut, nous allons tous passer au tribunal de Christ. Selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps, dit Paul. Le salut n'est pas en question, mais nous rendrons compte des choses. Parce que quand on nous confie quelque chose dans le monde, on t'en rend responsable et après il faut que tu rendes des comptes, n'est-ce pas ? Eh bien, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Loué soit le Seigneur. Participant à toutes les vertus qui sont dans le Seigneur. Pendant notre temps terrestre, plus nous l'aimons, plus nous expérimentons cette mort à nous-mêmes, plus nous lui obéissons, plus nous le servons, plus la nature du Seigneur se développe en nous. Son amour, son humilité, sa patience, sa douceur, sa compréhension, sa grâce, toutes ces vertus sont introduites progressivement en nous au travers de notre service, au travers de notre obéissance, au travers de notre amour pour lui. Il veut nous transformer à son image, nous rendre conformes à lui en sagesse, en sa puissance et en son amour. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Pas les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance en toutes choses. Pas l'intempérance, pas l'exubérance, la tempérance, la maîtrise de soi. Combien nous en avons besoin, frères et sœurs, lorsque nous sommes soumis à une réaction de la chair en face, combien nous avons besoin d'avoir une maîtrise de soi. Heureux ceux qui sont dans cet état-là. Heureux ceux qui ont acquis ce fruit dans l'esprit. Heureux êtes-vous si cela apparaît dans vos vies. Paul, Jacques nous dit que cette maîtrise de soi, nous allons l'acquérir par la maîtrise de notre langue. Vous avez vu les bateaux qui sillonnent la mer, ces gros bateaux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail qui les dirige là où ils doivent aller. La langue dans le corps humain est le plus petit des membres, mais alors, il dirige tout notre corps. C'est pour ça qu'il y a eu une chanson dans le temps par une artiste qui est morte, une chanteuse, qui disait parole, parole, parole. Dalida. Sois peu prolifique en parole, mais grand en acte. La langue, elle est capable de mettre le feu à une nation, à une famille, à l'église, au monde. L'homme parfait, dit Jacques, c'est celui qui sait tenir sa langue en bride. Ou alors, comme David disait, ne soyez pas comme des mulets qui sont sans intelligence, à qui il faut mettre, psaume 32, un mort dans les dents pour les discipliner. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Oui. Oui. Amour. Oui. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la longanimité, c'est la bienveillance, c'est la bonté. Frères et sœurs, mais dites-moi, rentrez chez vous, prenez ce passage de Galates 5 et analysez tous les mots. Hein, et soulignez ce que vous n'avez pas. Et priez Dieu pour qu'il nous change. Qu'il nous transforme, afin que le monde voit que nous sommes des enfants de Dieu, et non pas à notre baratin évangélique, à notre témoignage. Paul va dire aux Philippiens, en Philippiens 2:5, il va dire qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Qu'il y ait en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Nous devons avoir la pensée de Christ. à un moment donné, frères et sœurs, dans l'église du Seigneur, et il y avait des gens bien intentionnés dans les églises, quand il y avait un problème dans l'église, que des serviteurs de Dieu relevaient en mettant un jugement sur la chose, en venant dire, mais pasteur, vous n'avez pas le droit de juger. Pourtant, Paul dit que nous devons juger des choses qui sont spirituelles, que nous jugeons des choses spirituelles, car il nous est dit que nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Seigneur. Nous sommes participants à ses vertus, à ses grâces, mais aussi nous sommes participants de son œuvre. Alors le mot participant dont on parlait tout à l'heure, quand je vous ai entendu dans vos différentes versions, il a cette connotation en grec de partenariat. Je suis partenaire avec Christ. Alléluia. Partenariat. D'association. De compagnonnage, de travail, de fonction, de dignité, mais aussi un travail de collaborateur. Je suis participant de Christ. Je travaille en collaboration avec d'abord le Christ, et ensuite avec mes frères et avec mes sœurs, mais d'abord avec le Seigneur. Et je ne ferai jamais passer le Seigneur après mes frères et mes sœurs. Je le ferai passer d'abord avant. Lui d'abord. Nous sommes collaborateurs. Un collaborateur, c'est quelqu'un qui va avoir son vis-à-vis, avec lequel il va entretenir une relation saine. Ils vont tout se dire pour que ça fonctionne bien. C'est ça la collaboration. Je vois ça, une espèce de main d'association. Nous sommes coparticipants. Nous sommes collaborateurs. Nous sommes compagnons. Et quoi encore, frères et sœurs? Et quoi encore? Nous sommes partenaires. En fonction, et en dignité. Participant de Christ en fonction et en dignité. Parce que si je suis collaborateur avec mon Seigneur, je dois refléter les choses qui sont en lui, doivent se refléter dans ma collaboration avec lui et avec mes frères et sœurs. Et si je dis que je suis quelqu'un dans l'église, et que je suis comme ça et comme ci et comme l'autre, si je ne suis pas vraiment collaborateur avec le Seigneur, je ne serai pas collaborateur avec mes frères. Pierre, et vous connaissez ce passage, 1 Pierre 2, versets 4 à 6, il nous est dit que nous nous approchons de lui comme d'une pierre vivante. 1 Pierre 2, versets 4 à 6, duquel vous approchons comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi comme des pierres vivantes. Il est vivant, il est choisi, précieux aux yeux de Dieu. Tu es une pierre vivante, tu es choisi et précieux aux yeux de Dieu. Pourquoi te méprises-tu? Pourquoi te rabaisses-tu? Pourquoi? Avec ses pensées du monde qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Choisi, précieux. Choisi, précieux. Arrêtons et disons une bonne fois pour tout à Satan, sors de là, excuse-moi, dégage de ma vie, tu n'as plus rien à faire dans ma vie. Je suis scellé, j'ai été purifié, je ne suis plus sous la condamnation, ma conscience a été purifiée, sors de là, je n'ai plus rien à voir avec toi et je ne prêterai pas à l'oreille pour me faire du misérabilisme évangélique. Je ne suis pas bien, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne suis pas l'autre. Honte à toi. Si Christ vient en toi. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Laisse le Seigneur faire. Il sait ce qu'il fait. Si tu ne te trouves pas bien, ben laisse-le faire. Il va continuer, t'inquiète pas. Hein. Il va te changer. T'inquiète pas, ne te casse pas la tête. Il va te changer. Mais choisie et précieuse auprès de Dieu, cette pierre qui a été rejetée par les hommes, une pierre vivante, vous-même aussi comme des pierres vivantes, être édifié une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte le privilège que nous avons? J'ai pas l'impression, moi, hein. Je travaille à la blanchisserie tous les jours. Moi, je suis chez Truffaut, je vends des mimosas et des cactus. Et moi, je suis... Et je suis quoi? Je suis quoi? Choisi, précieux, enfant de Dieu, scellé de l'Esprit, précieux aux yeux de Dieu, libéré, libéré. Vous êtes édifié, une maison... Une sainte sacrificature. Et si tu as le courage ce soir, si tu es en accord avec ton cœur, si tu es en accord avec ta foi, alors tu vas déclarer, oui, je fais partie de la sainte sacrificature. Et j'offre des sacrifices spirituels à mon Dieu, le fruit de mes lèvres qui chaque matin, à chaque moment de ma journée, confesse le nom du Seigneur. Soit que je prie, soit que je chante, soit que je dise la parole, je suis toujours avec mon Seigneur. Une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pas agréable à Dieu par toi, agréable à Dieu par Jésus. Parce que tout ce que vous devez le demander au nom du Seigneur Jésus. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul avocat entre Dieu et les hommes. Laissez tomber les saints, laissez tomber tout le reste, il y en a un seul et unique qui est mort et ressuscité et qui est assis à la droite du Père, c'est le Christ glorifié. Je veux te bénir, mon Seigneur, parce que tu as fait de nous une sainte sacrificature. Parce que tu nous permets d'offrir des sacrifices spirituels qui te sont agréables. Parce que nous les demandons en ton nom à Dieu le Père. Nous confessons ton nom, le fruit de mes lèvres qui confessent le nom du Seigneur. Oui, je te loue, je te bénis de tout mon cœur. Mon Seigneur Jésus, tu es mon frère et mon ami. Tu as payé le prix pour moi. Tu m'as lavé. Tu m'as... Seigneur, où irai-je? Tu as eu les paroles de la vie éternelle pour moi. Mais que ferais-je, Seigneur? Où irai-je boire si ce n'est à ta source? Participant de ces grâces, de ces vertus, et les regards de compassion. Il était ému de compassion devant les foules qui étaient sans berger. Il était ému dans des entrailles de miséricorde pour ceux qui souffraient. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, et toi, mon frère, et toi, ma sœur, où tu en es? Est-ce que tu pleures avec ceux qui pleurent? Est-ce que tu te réjouisses avec ceux qui se réjouissent? Mesure le chemin. Nous exerçons la sacrificature dans l'évangile, dit l'apôtre Paul. Romains 15, verset 16. Nous exerçons la sainte sacrificature dans l'évangile pour offrir des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu le Père. Chaque fois que tu confesses le nom de Jésus-Christ sur la terre, tu réjouis le cœur du Père. Il faut le dire. En ce jour-là, il fera de nous les participants de sa gloire. Il fera de nous des rois et des sacrificateurs pour l'éternité. Mais c'est un mystère insondable pour nous, frères et sœurs, malgré nos faiblesses et malgré les faillites de notre passé. Un jour maintenant très proche, Dieu fera de nous des rois et des sacrificateurs. C'est dans ce but que Dieu créa Adam, le premier homme. C'est dans ce but. Il a dit, voilà, je te crée, domine sur tout. Domine sur tout. Et nous dominerons avec le Seigneur sur tout parce que nous régnons déjà avec lui en espérance et en puissance. Alléluia. Nous régnons maintenant, dit l'apôtre Paul. Nous régnons maintenant, 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 nous régnons avec lui. Et c'est pour ça que l'ennemi, il se régale. C'est parce qu'il nous rend aveugles. Il veut que nous ne réalisions pas que nous régnions maintenant. Parce que si nous régnions maintenant, à nous les anges, à nous les légions d'anges pour le combat spirituel, au lieu de se laisser frapper par l'ennemi. Quelle honte nous avons. À nous la victoire dans nos maisons, à nous la victoire dans nos familles, à nous la victoire sur les âmes, à nous la victoire sur l'Église, à nous la victoire sur le monde, alléluia. Et alors je vais te dire ce soir, le monde, les nations, ils peuvent comploter, ils peuvent rire contre l'Éternel et son oint, mais Dieu en haut, il rigole. Les rois des nations complotent. Pour comment ils complotent? Contre Dieu et son oint. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que cette terre appartienne à Jésus. Ils complotent. La franc-maçonnerie complote. Les Illuminati complotent. Tout le monde spirituel, ténébreux, complote pour avoir le pouvoir sur la terre. Mais je vous dis une bonne nouvelle. Jésus va venir régner ici. Et les ténèbres s'enfuiront. Oh, vous n'avez pas compris ce psaume? Et maintenant, il faut que nos yeux s'ouvrent un peu. Hein. Il est temps maintenant de devenir un peu intelligent dans l'esprit de Dieu. Hein. Regardez, les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Et comment ils consultent? Et comment ils complotent? Ils sont en train de tout faire pour prendre la direction de cette terre. L'Antichrist, il arrive. Mais Dieu rit. Alors, allez, bougez-vous, faites ce que vous voulez. Vous allez voir que moi, je vais amener à la lumière toutes vos ténèbres. Ah, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Est-ce que je pourrais douter un seul instant que ce qu'il a dit ne va pas l'accomplir? Seigneur, j'ai trop vu dans ma vie tout ce que tu as fait pour que je puisse douter un seul instant que tu vas rire des nations qui se bougent comme des fourmis. Tu as vu une fourmi quand tu es du haut de ton 1m80, tu les regardes, tu dis si je pose le pied dessus, je vais les écraser. Et Dieu, il rit. Agitez-vous, mais agitez-vous, allez-y. Allez-y, agitez-vous, allez-y. Allez-y. Participant de son œuvre. Partenaire, collaborateur. Oui, nous sommes une sainte sacrificature. Et je suis heureux de faire partie de cette sainte sacrificature. Je suis heureux de pouvoir servir mon Dieu dans sa maison. Je suis heureux de savoir que l'Esprit de Dieu se meut au milieu de nous. Je suis heureux de savoir que j'étais scellé de l'Esprit. Je vois dans ma vie et dans la vie de mon épouse comment Dieu fait avec nous. Je vous dis, il veut faire le meilleur pour nous. C'est un seul instant, vous compreniez qu'il faut donner vos vies. Ne retenez rien. Et nous abordons le septième point. Et bien sûr, dans tout ça, le but final de Dieu, ce septième point, c'est notre participation à sa gloire. Il ne peut pas en être autrement. Et vous allez voir ce que le Seigneur a réservé pour nous, n'est-ce pas? Notre Seigneur est bon et juste. 1 Pierre 5, verset 1. Participant à sa gloire, septième point. 1 Pierre 5, verset 1. Le psaume en question, c'était le psaume 2, versets 1, 2 et 3. 1 Pierre 5, 1 déclare, par la bouche de notre bien-aimé frère Pierre, « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, et témoin des souffrances de Christ, qui aussi, dit Pierre, qui aussi est par à la gloire qui va être révélée. » À l'Église, dit ce soir, j'ai part à la gloire qui va être révélée. Dis-le. Dis le plus fort qu'ils entendent là au micro. Alléluia. La gloire qui va être révélée. Avec mon Seigneur. Avec le monde angélique. Avec l'univers entier. Je suis sûr que les étoiles, elles vont danser d'allégresse dans les cieux. Je crois que les étoiles, les galaxies, elles vont éclater de joie. Participant de sa gloire. Ceci arrivera le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra pour la seconde fois accompagné de ses saints et de ses anges. La première fois, il s'est abaissé volontairement lui-même. Il s'est anéanti pour nous montrer le chemin qui mène au Père. Il reviendra la seconde fois en tant que roi céleste. Par trois fois, l'Écriture lui attribue ce titre, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, élus et fidèles. Apocalypse 17, 14. Ceux qui sont avec lui, qui auront participé et qui participent à sa gloire, seront appelés comment? Élus et... Aïe, 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 la fidélité. L'ami fidèle, il aime en tout temps. Quelles que soient les circonstances. Apocalypse 17, 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau. Et l'agneau l'est. Alors, ils disent complotons contre l'Éternel et son oint. Allez! Et le Seigneur en haut, il rit. Jésus va venir et va les vaincre. Il va vaincre d'abord, n'est-ce pas, tous ces rois qui ont été manipulés par Satan, toutes ces principautés, toutes ces dominations, toutes ces autorités que Satan a mis en place sur la terre. Alors, à la croix, Jésus les a vaincus. Maintenant, il va falloir qu'il passe dans les temps de feu et de soufre, parce que c'est le jugement qui va être appliqué. Je me rappelle et je vous redis une petite histoire, peut-être certains ont connu cette histoire-là. C'était il y a de nombreuses années en arrière. C'était aux États-Unis. C'était un homme qui était en prison parce qu'il avait tué, je crois, 2 ou 3 personnes. Il s'appelait Caryl Chessman. Cet homme, il a été condamné à la chaise électrique. Et tous les jours, il attendait de passer à la chaise. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 15 ans. Il n'était pas passé sur la chaise électrique. Mais pendant ces 15 ans, il avait écrit en prison. Il était devenu un célèbre auteur. Ses ouvrages faisaient fureur dans le monde entier. Il était devenu célèbre en prison. Mais au bout de la 16e année, ils sont venus le chercher. Et il est passé à la chaise électrique. Tu te souviens de cette histoire? Il est passé à la chaise électrique. Ce qui me fait dire que Satan, il a été jugé il y a 2000 ans à Golgotha. Il peut continuer à faire ce qu'il a à faire. Le Seigneur lui laisse cette permission-là. Mais il faudra que le jugement tombe et qu'il soit jeté dans les temps de feu et de soufre. Je vous dis cette petite histoire pour que vous compreniez bien que Dieu est patient, hein. Et la patience de Dieu, c'est notre salut. Et l'agneau, nous est-il dit, et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. C'est ainsi qu'il viendra la seconde fois, accompagné de tous ses anges, avec toute sa gloire, en tant que roi des rois et seigneur de tous les seigneurs. Prenez s'il vous plaît avec moi la deuxième aux Thessaloniciens. Au chapitre 1 et au verset 7 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7 à 10. Et Paul dit que de vous donner à vous qui subissez la tribulation du repos avec nous dans la révélation du Seigneur Jésus-Christ du ciel avec les anges de sa puissance en flamme de feu, en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas Dieu, et plutôt, regardez ensuite la suite, s'il vous plaît, lisez-le. Et contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels subiront le châtiment d'une destruction éternelle devant la présence du Seigneur et devant la gloire de sa force quand il viendra pour être dans ce jour glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru. Alléluia. Admiré. Nous allons admirer le Seigneur et la puissance de sa gloire. Quand il viendra avec tous ses anges, n'est-ce pas? Quand il viendra avec tous ses anges, avec les anges de sa puissance en flamme de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et surtout contre ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur. En ce jour-là, il fera de nous les participants de sa gloire. Il fera de nous ce que nous devons être, des rois et des sacrificateurs pour l'éternité. Ainsi, si nous persévérons jusqu'au bout, nous aurons part à cette vocation céleste et rendus participants à un plan d'amour incroyable et incommensurable que l'intelligence humaine ne peut comprendre si cela ne nous était pas révélé par le Saint-Esprit de Dieu. Voici donc ce qui nous attend, frères et sœurs. En tant que participants à sa gloire. Voilà ce qui nous attend. Premièrement, trois types de couronnes vont nous être offertes. Trois types de couronnes seront pour les enfants de Dieu. La première couronne, la couronne de vie. Celle-là, elle est destinée à ceux et celles qui sont fidèles et fidèles jusqu'à la mort. La fidélité est une grande qualité. Seuls les fidèles peuvent rester dans la course et atteindre le but. Paul nous enseigne en Romains 2 et versets 6 à 7. Il va nous dire ceci, que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, c'est-à-dire la vie éternelle. Cette vie éternelle est semblable à une couronne accordée à celui qui a été fidèle toute sa vie et qui reçoit gloire, honneur et immortalité. Couronne de vie à ceux qui sont fidèles et jusqu'à la mort. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tolérer l'infidélité dans les couples. Nous ne pouvons pas tolérer l'infidélité dans l'église. Nous ne pouvons pas tolérer ces choses-là. Parce que c'est le cri de notre cœur. Vous savez, frères et sœurs, j'étais avec le Seigneur et je lui posais cette question. Mais Seigneur, est-ce que ce que je prêche, c'est vraiment ce que tu veux? Je fais rien que leur dire qu'il faut qu'ils se repentent. Je fais rien que leur dire qu'il faut qu'ils confessent leurs péchés. Je fais rien que leur dire ces choses. Ai-je raison, Seigneur? Vous savez que le Seigneur, il est prompt à répondre. Il est prompt à répondre. Et vous allez voir, c'est exactement ça. Acte 20, à partir du verset 17. Paul. Acte 20, verset 17. Il est dit ceci. Or, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit, aux anciens, il va leur dire ceci, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous? Tout le temps, depuis le premier jour que je suis rentré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigner publiquement et dans les maisons. » Et voilà ce qu'il va dire. Insistant, et auprès des Juifs, et auprès des Grecs, sur quoi? Sur la repentance envers Dieu, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En insistant, sur quoi? Sur la repentance envers Dieu, et la foi en Jésus-Christ. Si nous insistons sur la repentance, c'est parce que c'est la clé qui nous ouvre les portes du royaume. La repentance Frères et sœurs, réfléchissons ensemble, s'il vous plaît, ensemble. Mettons un petit peu d'amour dans notre réflexion. La repentance est la clé qui va nous ouvrir le salut. Parce que la repentance, elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à nous repentir. Elle ouvre la porte du salut. Alléluia. Et c'est pour ça que quand nous insistons sur la repentance, c'est que nous sommes en train de dire aux gens, mais soyez sauvés, repentez-vous, convertissez-vous. Insistant, pas déblatérant, il les a enseignés, publiquement, il les a enseignés dans les maisons, il a prêché, mais toujours il dit ceci, en insistant. Ils n'avaient pas marre d'entendre Paul. En insistant sur quoi? Sur l'enlèvement du Seigneur, sur la doctrine de je ne sais pas si, de je ne sais pas l'autre, de je ne sais pas l'autre. Non, sur la repentance. Quel homme admirable! Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables pour vous. Je n'ai rien caché, je vous ai tout dit, mais j'insiste. Repentez-vous. J'insiste. Convertissez-vous, parce que c'est le message du Seigneur. Quand il est sorti du désert et qu'il est venu en Galilée, il nous a dit, il est revenu en Galilée dans la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, convertissez-vous. Repentez-vous. Convertissez-vous, parce que le royaume des cieux s'est approché. Je n'ai entendu Jésus que dire ces choses-là. Mais pour avoir une repentance, il faut être convaincu dans son cœur qu'on est un pécheur. Il faut être convaincu qu'on est en train de pécher, même au moment où je parle. Parce que si tu laisses traîner des choses dans ton cœur, tu auras à rendre compte au Seigneur. Je comprends Paul qui disait, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Et il disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La couronne de vie, elle est pour ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Ceux qui persévéreront dans les bonnes œuvres, cherchant la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité. Et le Seigneur rendra à chacun selon son œuvre. Cette vie éternelle est semblable à une couronne accordée à celui qui a été fidèle toute sa vie et qui reçoit gloire, honneur et immortalité et vie éternelle avec le Seigneur. Venez-vous, les fidèles, venez-vous, venez entrer dans le royaume de mon Père. Venez. Là, seconde couronne que le Seigneur veut nous attribuer, il la donnera à certains. C'est la couronne de justice. Elle est destinée à ceux et celles qui aiment son avènement, ou l'espérance de la seconde venue du Seigneur. C'est cette pensée qui nous sanctifie le plus. Les saints doivent vivre dans l'espérance du retour imminent du Seigneur. Voilà ce que Paul disait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Quelle grâce nous avons d'avoir un si grand Seigneur. Quelle grâce d'avoir, d'entendre ce que nous entendons ce soir. Couronne de vie, couronne de justice. J'ai combattu le bon combat, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et je suis en train d'achever ma course. J'ai gardé la foi. Je ne l'ai pas perdue. Au contraire, Seigneur, elle se fortifie de jour en jour, de plus en plus. Désormais, m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur, juste, me donnera dans ce jour-là. Et ce n'est pas une prétention. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Couronne de vie, couronne de justice et la troisième couronne, les trois glorieuses. La couronne de gloire est réservée, et celle-là, elle est réservée aux serviteurs de Dieu consacrés qui nourrissent le troupeau. Les âmes que Dieu nous donne à être préservées, doivent être préservées et conduites à la perfection parce qu'elles sont notre récompense. Parce qu'elles sont notre récompense. Parce que je me vois comme un sacrificateur qui vient apporter les prémices des récoltes au Seigneur. Je me vois balançant les gerbes de derrière en avant, de gauche à droite, présentant au Seigneur les fruits de la récolte. La couronne de gloire pour ces hommes qui ont servi Dieu consacré, qui ont nourri le troupeau. Les âmes que Dieu nous a données et doivent être préservées et conduites à la perfection parce qu'elles sont notre récompense. Paul disait à ses convertis, car vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. Ils pouvaient se réjouir quand ils voyaient le fruit de ce que le Seigneur lui avait donné à faire. Est-ce que tu te réjouis du fruit de ce que le Seigneur te donne à faire? Ou alors tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a rien qui se passe. Si tu penses être serviteur, y a-t-il du fruit? Parce que ce fruit, c'est ma gloire. Vous êtes notre gloire et notre joie. Il va dire aux Philippiens, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ en témoignage, que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Vous savez, un des grands poids dans le cœur d'un serviteur de Dieu, je peux ouvrir mon cœur ce soir, c'est de dire, Seigneur, est-ce que je n'ai pas travaillé en vain? Seigneur, est-ce que ce qui a été fait a apporté à un moment donné du fruit quelque part? C'est dans mon cœur. Beaucoup enseigné, beaucoup prêché, beaucoup missionné. Oui, la couronne de gloire est réservée aux serviteurs de Dieu consacrés. Je dis aux serviteurs de Dieu consacrés. Je ne dis pas aux farfelus. Je dis aux serviteurs de Dieu consacrés. Ceux qui ont leurs mains remplies du zèle de la maison de l'Éternel. Ceux qui servent le Seigneur. Pas ceux qui se servent quand ils en ont envie. Ceux qui aiment le Seigneur avant leur propre vie. Présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ, en témoignage que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Comment Paul pouvait-il se poser de telles questions? Lui qui avait évangélisé 3 voyages missionnaires, il avait parcouru le monde habité, annonçant l'évangile du Seigneur. Il se posait la question à la fin de sa vie. Seigneur, ai-je travaillé en vain? Et voici la réponse du Seigneur. Parce qu'il y a une réponse du Seigneur à cela. Et je rends gloire au Seigneur pour cette réponse. Dieu, notre Dieu, notre Père, mon Père, ton Père, tu es son enfant. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Alléluia. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servant encore. Amen. Dieu. Dieu n'est pas injuste, n'est pas ingrat. Il n'est pas ingrat pour oublier notre œuvre, celle qu'il nous a donnée à faire. Pas la mienne, celle que le Seigneur nous a faite faire. Et l'amour, et là je peux dire devant vous ce soir, j'aime mon Seigneur. Vous n'êtes pas prêt même de mesurer l'amour qu'il y a dans mon cœur pour le Seigneur. Il n'y a que moi qui sais. Mais j'aime mon Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur. Ayant servi les saints et les servant encore, c'est ce que je fais avec vous, les frères et sœurs. Je vous sers et je continue de vous servir. Mais Dieu n'est pas ingrat pour tout ça. Il y a une juste rétribution pour ses serviteurs. La couronne de gloire nous est réservée. Amen. Parce que nous avons pris soin du troupeau. Vous savez, les années ont passé, la jeunesse du ministère a passé. Quand on est jeune, on est fougueux. On a besoin que le Seigneur nous travaille, nous travaille. Mais quand les années passent et que nous voyons la manière dont le Seigneur nous a pétris, comment il a fait avec nous, nous disons ce soir, nous rendons gloire au Seigneur de tout notre cœur. Et c'est ce que je souhaite pour vous, que quand vous arriviez à la fin de votre vie, que vous puissiez dire au Seigneur, parce qu'il le sait, il vous voit, Seigneur, j'ai été fidèle jusqu'à la mort avec toi. J'ai aimé ton nom plus que tout. Et le Seigneur s'en souviendra. Amen. Soyez bénis. Ainsi, notre vocation est un appel céleste, avec un Père céleste, avec une cité céleste, avec une Jérusalem céleste et avec une patrie céleste. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net